Lorsqu'on réfléchit, les fiançailles, comme sur le mariage, n'ont qu'un seul fondement, l'amour. Nous aimons notre Dieu. Nous ne sommes pas fiancés avec Dieu, avec Jésus, pardon, parce que nous avons peur du jugement. Nous ne sommes pas fiancés avec Jésus parce que nous avons peur de l'enfer. Nous ne sommes pas fiancés, nous n'avons pas choisi de marcher avec Jésus parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire ou parce que nos parents l'ont fait ou parce que nos amis le font, mais nous avons choisi de vivre avec Jésus tout simplement parce que nous avons réalisé son amour pour nous. Nous savons que l'amour de Dieu a été manifesté. Nous savons que l'amour de Dieu a été prouvé au travers du don du Fils qu'est Jésus. Alors, que faisons-nous ? Nous nous disons, Seigneur, je t'aime. On l'a beaucoup entendu ce matin. Je t'aime, Seigneur. Et c'est vrai, et je crois que nous le disons d'une manière tout à fait sincère. Comme un fiancé peut se tourner vers sa fiancée ou un mari vers sa femme en disant, chérie, qu'est-ce que je t'aime ? Elle n'est pas là, mais qu'est-ce que je t'aime, chérie ? Puis elle pourrait me répondre, moi aussi je t'aime. Et Jésus, on lui dit, Seigneur, je t'aime. Et lui nous répond, je t'aime. C'est cette relation qui est là. Et après, on sait bien que l'amour, ça s'entretient. Nous qui sommes des vieux mariés, c'est-à-dire mariés depuis plus d'une journée, nous avons tous réalisé que l'amour, ça s'entretient. Là va de même. Nous sommes fiancés avec Jésus, mais notre amour a besoin de s'entretenir. Ce matin, j'aimerais me livrer à un exercice un petit peu difficile, un petit peu compliqué, du moins il va l'être pour vous. J'aimerais que la méditation, la réflexion que nous allons faire soit à deux niveaux. Le premier, la relation du couple, qui doit être entretenue de manière à continuer à bien vivre, mais qui va être développée au travers de la relation que nous avons avec Jésus, qui, elle aussi, doit être entretenue. Et finalement, les bases sont quasiment les mêmes. Nous allons les expliciter en quatre points, si nous avons le temps. Première chose, donc le titre de la méditation, c'est « Aimer Dieu, c'est quoi ?» Premier point, aimer, c'est être capable de valoriser. Et être capable de se valoriser. Quand on aime une personne, on la met presque sur un piédestal. Votre fiancé, votre femme, votre épouse, lorsque vous l'avez connue, il n'y en avait pas de plus belle. Il n'y en avait pas de plus intelligente. Il n'y en avait pas une seule qui pouvait vous donner autant de bonheur qu'elle. Et gare à celui qui osait dire le contraire. Gare à celui qui disait, tu sais, peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Oula ! Les foudres s'abattaient sur lui. Valoriser, c'est mettre l'emphase sur ce qui est bien chez l'autre. Et nous le faisons tous avec nos maris et nous le faisons tous avec nos femmes. Chérie, qu'est-ce que tu cuisines bien ? C'est elle qui me le dit. Je casse l'image du pasteur Mathieu. Chérie, qu'est-ce que tu prends bien soin de moi ? Tu es celle qui me fallait. Tu es celui qui me fallait. Valoriser, c'est mettre en évidence, mettre en valeur les traits de caractère qui nous séduisent chez l'autre. Et si nous l'avons aimé un jour, c'est qu'il y avait quelques traits de caractère qui nous plaisaient. Valoriser, c'est également valoriser les efforts qui sont faits pour gommer les traits de caractère qui nous déplaisent. Mais ce problème-là, nous ne l'avons pas chez Dieu parce que Dieu est parfait. Quoique nous pouvons l'avoir parce que nous aimerions qu'il agisse d'une certaine manière, qu'il n'entre pas dans notre perfection à nous, qu'il n'agit pas exactement comme nous souhaiterions. Donc, quelque part, voilà. Je crois qu'avec Dieu, il en va de même. Il est nécessaire de le valoriser. Et en théologie, ce terme peut être remplacé par le mot louange. Louer Dieu, c'est le valoriser. Louer Dieu, c'est appuyer les qualités qui sont les siennes. Et c'est quelque chose qui est très fort. Et je vais essayer d'expliquer, de l'expliciter au travers du psaume 45. Les conséquences de cette valorisation de Dieu. Des paroles, le fils de Corée écriront, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour toi. Que ma langue soit comme la plume d'un ami l'écrivain, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Le psalmiste, que fait-il ? Il contemple la beauté de Dieu. Il contemple la beauté de Jésus. Il contemple la beauté de celui qu'il aime. Et quelle est la résultante de cette contemplation ? C'est que son cœur commence à bouillonner. Dans son cœur, il y a quelque chose qui commence à vivre, qui commence à exploser, qui commence à être larvé. Et ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, à tel point qu'il veut que son présent soit consacré, mon œuvre est pour le roi, et qu'il veut que son futur soit également consacré à celui pour lequel son cœur bouillonne, c'est-à-dire que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je veux continuer, non seulement je te consacre mon présent, mais en plus je veux continuer à composer et à être une œuvre encore plus belle pour toi, parce que tu es le plus beau. La louange pour la louange, ça ne sert à rien. Louer pour louer et pour dire que l'on a loué, parce qu'on nous a dit qu'il fallait louer, et à une époque que dans nos églises, il y a eu cette grande mode qui s'appuyait sur ce psaume qui disait « Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis ». Il suffisait de louer Dieu, de louer Dieu, de louer Dieu, et puis tout allait d'un coup de claquement de doigts changer. Non. La louange pour la louange, ça n'a finalement pas grande valeur. Mais la louange qui est issue de la contemplation de la beauté de Dieu, qui est issue de la contemplation des attributs, du caractère de Dieu. Quand je contemple la fidélité de Dieu, quand je contemple l'amour de Dieu, alors des choses se mettent à bouillonner en moi. Tu es le plus beau, Seigneur. Tu es le plus beau. Jamais personne n'a fait une œuvre comme la tienne dans ma vie. Jamais. Ton trône est plein d'équité. Ton trône est juste. Tu es juste. En contemplant ces choses-là, alors il y a ce bouillonnement qui est le commencement de toute chose. Ensuite, mon présent est donné, mon avenir est constitué, et je rentre dans une forme de cercle vertueux qui tire ma foi et qui lui permet d'aller de l'avant. La louange, ce n'est pas l'action de grâce. L'action de grâce est basée, c'est la reconnaissance de ce que Dieu nous a donné. La louange, c'est le constat de la beauté de Dieu, nous louons Dieu pour ce qu'il est, tandis que l'action de grâce, nous le remercions pour ce qu'il donne. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc nous aurons toujours vocation à louer Dieu parce qu'il ne change pas. Simplement, les circonstances de notre vie peuvent nous le faire déformer quelque peu, nous le savons. Mais mes frères, mes sœurs, continuez à louer Dieu, ça fait du bien à son cœur. Fait du bien quand votre mari vous dit « tu es belle ». Tu es beau, tu es gentil, tu es celui qu'il me fallait. C'est un petit peu comme dit le Proverbe 16, verset 24, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Et dans le Cantique des Cantiques, hein, il est écrit la chose suivante, que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. C'est le bien-aimé qui est le type de Jésus qui parle. Hein, comme ton amour vaut mieux que le vin et combien tes parfums sont plus suaves que tous tes aromates. Ça fait du bien au cœur de Jésus quand on lui dit « je t'aime ». On se demande, on se casse la tête parfois pour savoir comment est-ce que je pourrais faire du bien à Jésus. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui qu'il est beau. Dites-lui qu'il est celui qu'il vous faut. Et vous ferez du bien au cœur de Jésus. Prenez-en conscience et quelque chose se passera dans votre cœur. Amen. Beaucoup d'actions de grâce, mais nous gagnerons à rester dans la contemplation de la personne de Jésus. Faisons-le. Dans vos temps avec Jésus. Apprenez à contempler qui il est. Relisez les évangiles et regardez ce que Jésus a fait. Toute sa compassion, toute sa miséricorde. Regardez à sa puissance, regardez à son amour. Alors, eh bien, vous verrez sa grâce se répandre dans votre vie. Amen. Deuxièmement, quand on aime quelqu'un, aimer quelqu'un, c'est s'accorder des moments privilégiés avec lui. Nous sommes dans une société où nous vivons à 2000 à l'heure. Et tous les couples le savent, s'accorder des tête-à-tête autour d'un dîner aux chandelles avec sa moitié, c'est quelque chose qui parfois est extrêmement compliqué à faire, mais que nous devrions tous faire. Passer du temps à discuter, passer du temps à échanger, vivre ce que Chapman appelle des moments de qualité, je trouve que c'est quelque chose d'important. C'est même quelque chose d'essentiel pour un couple. Parfois, on se trompe de priorité. Là, je m'écarte complètement de mon sujet. Parfois, on se trompe complètement de priorité. C'est les amis. C'est les loisirs. C'est le faste. C'est l'amusement. C'est le travail. Qui passe avant quelque chose qui finalement est le socle de notre couple, qui est le socle de notre vie, c'est-à-dire notre couple. Si notre couple va mal, notre foi n'ira pas bien. Notre foi n'ira pas bien. Si les parents vont mal, les enfants n'iront pas bien. Et si les couples de l'Église vont mal, l'Église n'ira pas bien. Pour cela, il est nécessaire de s'accorder des temps privilégiés que l'on passe. Et je vous garantis, et je sais que vous le savez, mais je vous le redis, je rabâche un petit peu, c'est l'âge, que c'est ô combien bénéfique à nos couples. Peut-être des couples en ont besoin et n'ont pas mis les bonnes priorités au bon endroit. Passer des moments ensemble. Dans l'église, on est combien ? Les 150 ? Il y a au moins 148 baby-sitters. Vous avez envie de passer une soirée avec votre femme ? Eh bien, appelez-moi, je vous trouverai une baby-sitter, et s'il n'y en a pas, je le ferai moi-même. Je la ferai moi-même. C'est déjà fait, je vous ferai marquer. Hein. Mais je serai heureux de le faire, parce que je sais que c'est un couple qui va se faire du bien. Amen. Nous aimons être ensemble. Ce n'est pas normal qu'un mari et une femme n'aiment pas être ensemble. C'est quelque chose qui dépasse tout entendement, toute imagination. Il en va de même avec Jésus. Imaginez-vous, vous dites, on dit à Jésus « je t'aime » et on est avec lui uniquement le dimanche matin. Est-ce que ça ne dépasse pas tout entendement ? Quand j'aime une personne, j'ai envie d'être avec elle toujours. J'ai envie de passer mes journées avec. Je me souviens à l'époque où j'étais pas encore fiancé avec Myriam, je sacrifiais des matchs de foot pour aller me cailler dans une télécabine téléphonique pour l'appeler pendant une heure. Pour quelle raison ? Parce que je l'aimais et j'avais envie d'entendre sa voix. J'avais envie de savoir quelle avait été sa journée. J'avais envie de connaître les conseils qu'elle allait me donner pour la mienne. Avec Jésus, c'est pareil. Et je reprends l'image. Acceptons d'aller nous cailler dans le froid de notre chambre plutôt que d'aller nous réchauffer devant l'écran de télévision. Parce que nous voulons être avec lui. Parce qu'il est important pour nous. C'est quand même très paradoxal de dire à Jésus « je t'aime » et je crois que c'est sincère. Mais ce matin, le but, c'est pas de culpabiliser en disant « tu n'aimes pas ». Mais le but, c'est de dire « aime mieux ». Aime mieux. Et pour mieux aimer, passe plus de moments privilégiés avec ton Dieu. C'est le souhait du Seigneur Jésus. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 11 et au verset 19, il est dit, en parlant des enfants, vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez, de la loi, des commandements, quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est-à-dire que la loi de l'Éternel était présente dans le quotidien des enfants et dans le quotidien des parents. De la même manière, parce que Dieu était dans le cœur des enfants, dans le cœur des foyers, sans arrêt. C'était une préoccupation, c'était une priorité. Je crois qu'il en va de même pour nous. J'aime mon Dieu, donc j'accepte de passer du temps avec lui. Et nous l'avons chanté, psaume 84, verset 10. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Amen. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, c'est une formule de style qui veut dire que la présence de Dieu vaut mieux que toute autre chose et que le psalmiste non seulement le disait, mais le vivait. Et je crois, mes frères et sœurs, que nous avons besoin de vivre non pas une relation de loin en loin, mais de vivre une relation de proximité. Et j'aimerais conclure cette deuxième partie par juste une question. Qui est Jésus pour vous ? Petite A. Une connaissance. Je le croise parce que des amis à moi le croisent. Jésus veut vous fiancer avec lui. un copain. On partage quelques moments ensemble, on prend du plaisir, mais après, il n'a aucun impact sur ma vie. Jésus veut vous fiancer avec lui. Un ami, certes, mais un ami, on ne vit pas avec. Il a le droit d'entrer, il a le droit de sortir, de venir à la maison quand il veut, il y a toujours un plat de nouilles qui est prêt pour lui. Mais Jésus veut nous fiancer. Il veut que nous vivions notre quotidien avec lui. Il veut être l'objet de notre préoccupation. On peut simplement cohabiter avec un homme ou avec une femme. Et c'est une maladie qui est ô combien répandue dans les couples. Une même pièce, le mari est devant le PC, la femme est au téléphone avec sa mère. Et puis quand c'est plus la mère, c'est la copine. Et les jours passent. Avec ce même rythme. Et finalement, la mère et les copines en savent plus sur le mari que lui-même. Et l'ordinateur connaît mieux les états d'âme du mari que la femme. On est dans le même lit. On est à la même table. Mais le cœur n'y est plus. On peut cohabiter avec Jésus. Il est dans notre cœur. Il fait son petit truc dans son coin. Et petit à petit, on l'a mis à la porte. Il y a cette image que j'aime beaucoup dans le livre du Cantique des Cantiques, dans le chapitre 2. On voit la tsunamite en train de dire... Mon bien-aimé, c'est tout pour moi. Il est tel un pommier qui me rafraîchit, son ombre me fait du bien, etc. Puis, elle le loue parce qu'elle le voit venir sur les montagnes comme un dieu puissant, comme celui qui peut tout aplanir. Puis, tout d'un coup, on le trouve, son bien-aimé. Mais il est à l'extérieur et est en train de regarder simplement par le grillage de la fenêtre. Elle l'aime, mais il n'est pas à l'intérieur. Et même plus, à la fin de ce chapitre. Alors qu'elle va lui dire, il va lui dire, allez, sors, c'est l'été, il y a des promesses pour toi, etc. C'est le moment de venir avec moi sur les montagnes. Elle va lui répondre, reviens plus tard, c'est pas le temps pour moi. Cohabitation. On vit. Il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de tension parce qu'il n'y a pas de passion. Que le Seigneur nous garde de n'être que des hommes et des femmes qui cohabitons avec nos époux ou avec nos épouses, mais surtout qui cohabitons avec Jésus. Nous sommes fiancés à lui. Nous sommes fiancés à lui. Nous partageons nos peines, nous partageons nos fardeaux. Nous partageons ses préoccupations parce qu'il en a. Nous partageons ses désirs parce qu'il en a. Comme il partage les nôtres, il partage nos joies comme nous partageons les siennes. Nous partageons la joie de voir des hommes et des femmes se faire engager, de s'engager dans les eaux du baptême, tout simplement parce qu'il y a la joie dans le ciel. Nous partageons ses souffrances pour tous les pécheurs qui sont à l'extérieur et qui vont en enfer. Nous vivons quelque chose, nous vivons une intimité avec lui. Troisième point, la nécessité de se faire des cadeaux. Qu'est-ce que c'est qu'un cadeau ? C'est vrai. Le dictionnaire dit que c'est quelque chose. Avec ça, on est bien avancé. Quelque chose que l'on offre. Donc, ce quelque chose, c'est concret. Et c'est varié. C'est deux indications que la définition nous donne. Quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ce quelque chose, on l'offre sans rien attendre en retour. Du moins en théorie. Seigneur, moi aussi je vais te faire des cadeaux. Et dans le livre du Lévitique, on a notamment l'image des holocaustes, qui sont une belle image des cadeaux que le peuple faisait, puisque les holocaustes étaient faits sans aucun motif. C'était fait simplement parce que eh bien, l'Israélite, à ce moment-là, eh bien, voulait faire plaisir à Dieu. Je crois qu'on a vocation à faire des choses gratuites. Souvenons-nous la dernière chose gratuite que l'on ait fait pour Dieu. Sans aucune arrière-pensée de dire « Seigneur, je te le donne, mais tu me bénis derrière ». On ne l'a pas formulé comme ça. Parce qu'on est beaucoup plus subtil, on est beaucoup plus fin. Mais où vraiment dans notre cœur, il y avait ce désir, ce souhait, de dire « Seigneur, je veux te faire plaisir ». On y reviendra. Deuxième point, un cadeau, c'est quelque chose qui nous coûte, plus ou moins. Il est hors de question d'offrir les 15 services à petit déjeuner que l'on a eu pour notre anniversaire de mariage à notre marié. Personne n'a jamais fait ça. David, l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, à un moment donné, Dieu lui demandera d'offrir un sacrifice. Il avait besoin d'un champ pour cela. Et le propriétaire lui dit, écoute, prends-le, je te l'offre. Hein, t'es le roi, donc j'ai rien à te dire, moi. Je te l'offre et je te l'offre de bon cœur. Et David lui dit, non. Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte pas. Un cadeau, ça doit coûter. Plus ou moins, mais ça doit coûter. Troisièmement, un cadeau, on ne l'offre pas pour se faire plaisir. Si j'offrais une PS3 à Myriam, ça serait un drôle de cadeau. Si je lui offrais une encyclopédie biblique, ça serait un drôle de cadeau. Et si elle m'offrait, on sait rien, des fleurs, ça serait un drôle de cadeau. Parfois, on peut être tenté d'offrir à Jésus des choses qui nous arrangent bien. Je t'offre cette heure de la journée, de toute manière, je ne sais pas quoi en faire. Je t'offre ce moment, voilà. Je t'offre telle chose. Seigneur, bénis-le, comme ça il sera plus gentil avec moi. On peut imaginer toutes sortes de réflexions diverses et variées. La louange est gratuite, nous l'avons souligné. Dieu nous a fait un cadeau magnifique en la personne de Jésus. Encore faut-il qu'on ouvre le papier cadeau. La question que j'aimerais vous poser, c'est simple. Avez-vous pensé ou imaginé, à quelques moments que ce soit, faire quel type de cadeau vous pourriez faire au Seigneur ? Là, ce matin, le Seigneur vous dit, je pense que c'est vraiment un souhait de sa part. Fais-moi un cadeau. Quelque chose qui te coûte, quelque chose qui ne fera plaisir qu'à moi, quelque chose de concret, quelque chose de vécu. Ça serait quoi ? Fais-moi un cadeau. Offre-moi quelque chose. Fais-moi plaisir, j'ai besoin. Tu dis que tu m'aimes, mais offre-moi quelque chose. Ça serait quoi ? Alors, sachant que vous n'auriez pas beaucoup d'idées, j'ai réfléchi pour vous. Alors, mes idées ne seront pas forcément bonnes. Vous en aurez certainement de meilleures après réflexion. Premièrement, je vais dire, eh bien, Seigneur, on va faire un repas ensemble. On va faire un repas au restaurant divin ensemble. Un repas de jeûne et prière. Voilà. 6h30, je rentre, douche, je m'apprête, etc. Puis je vais dans ma chambre, et là, je passe la soirée avec toi. Juste une soirée entre toi et moi, où on va parler, où je vais ouvrir ta parole, où je vais prier, où je vais t'exposer le fond de mon cœur. Parce que j'aime être avec toi. Je t'offre cette soirée-là en cadeau. J'oublie mes copains, j'oublie tout le reste, c'est entre toi et moi. C'est sympa, non ? Vous pouvez mettre des chandelles si ça vous favorise l'atmosphère. Pas des cierges, mais des chandelles. Deuxième idée. Seigneur, je vais vaincre ma timidité. Voilà, ce matin, je suis venu dans l'église, j'ai eu envie de louer Dieu, mais je ne l'ai pas fait, parce que d'abord, je n'ai pas trouvé ma place. Et puis deuxièmement, parce que voilà, ça me tenaille là. Pourtant, j'avais envie de le faire. J'ai envie de parler depuis longtemps à cette personne-là, à mon collègue de travail, à mon voisin, mais j'y arrive pas. Seigneur, je vais te faire ce cadeau-là. Parce qu'il me coûte, parce que je sais qu'il te fera plaisir, parce que c'est du concret. Eh bien, je vais élever ma louange à haute voix, Eh bien, je vais témoigner à ce collègue, à cette collègue. Je vais vaincre ma timidité. Et ça, c'est un superbe cadeau de la part de Dieu. C'est un superbe cadeau de la part de Dieu. Qui peut même déboucher sur quelque chose de plus grand, sur le baptême dans le Saint-Esprit. À partir du moment où on commence à ouvrir sa bouche, alors, eh bien, le Seigneur la remplit, et il peut même la remplir de langues que l'on ne connaît pas. Et nous pouvons vivre une Pentecôte personnelle, là, dans le secret de notre chambre, ou un dimanche matin au culte. Que le Seigneur soit béni. Troisième idée, vous en voulez d'autres ? J'en ai plein, j'en ai une quinzaine notées, mais je ne les ferai pas toutes. Lui envoyer des prières ou des louanges texto. De temps en temps, je suis en visite et puis je reçois un texto, c'est Myriam qui moi, je t'aime. Je fais la même chose. Plus rarement, certes. Mais ça fait plaisir. Ça fait du bien. Et pourquoi est-ce qu'avec Dieu, ça ne serait pas la même chose ? Dans le courant de nos journées, on s'arrête tout d'un coup, puis, merci Seigneur, t'es avec moi là. Hein. Oh, merci Seigneur, tu bénis un tel, tu bénis une telle. Seigneur, je t'envoie un petit texto, et puis, mais c'est vraiment pour te faire du bien. Mais c'est biblique, le bien-aimé dans le Cantique des Cantiques dira, une seule de tes paroles me ravit le cœur. Et chaque fois que vous enverrez un texto à Jésus, une prière texto à Jésus, dans la folie de vos journées, imaginez un sourire sur ses lèvres, un sourire dans son cœur. Mais on se fait du bien en faisant ça, parce que le Seigneur nous le rend au travers du Saint-Esprit. Il y a d'autres idées, mais je n'ai plus le temps. Cherchons des cadeaux qui feraient plaisir à notre Dieu. Qu'est-ce qui ferait plaisir à ton Dieu que tu lui offres, que tu lui consacres, qu'il ne soit qu'à lui et à toi, quelque chose qui ne soit même pas connu des autres. Je ne veux pas le connaître. Ton épouse n'a pas besoin de le connaître. Mais simplement, entre toi et lui, fais-lui plaisir. Quatrième, après j'arrête, promis. Quatrième point, donc, il est nécessaire de rendre service. Alors, c'est étrange de penser ça, mais de l'entendre de ma bouche. Mais il est nécessaire qu'un mari rende service à son épouse et qu'une épouse rende service à son mari. Lorsque le mari bricole, la femme lui passe le marteau. Et lorsque madame fait la vaisselle, monsieur peut venir l'essuyer. Comme ça, ça permet plus de temps à passer ensemble. Ensuite, dixit, deuxième point. Je crois qu'il y a des moments où on doit avoir nos jardins secrets dans un couple, certes. Chacun son territoire. Moi, je suis en bas, Myriam est en haut. Mais heureusement qu'il y a des moments où les deux s'empiètent. Les deux s'imbriquent. Et même quand je suis en bas, je pense à elle, je sais qu'elle est là. Et quand elle est en haut et que je suis en bas, elle pense à moi, elle sait que je suis là. Avec Dieu, c'est pareil. Notre quotidien, on le vit, mais il est là. Il vient, nos lignes se croisent, etc. Et il faut bien se dire que Dieu, même s'il est omniscient, qu'il est omnipotent, qu'il est omniprésent et qu'il est omnipuissant, qu'il peut tout, il a besoin de nous. Il a des désirs, il a besoin de nous. Et nous pouvons rendre service à Dieu. Nous pouvons rendre service à notre Dieu. Il veut se servir de nous. Vous savez, lorsqu'une femme, messieurs, je vous livre un secret, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, vous dit « Est-ce que tu peux venir m'aider ?» C'est déjà trop tard. C'est sous-entendu la phrase qui tue « J'avais besoin de toi avant, mais tu ne fais pas attention à moi. Tu n'es qu'un mufle. » Elles ne le disent pas comme ça parce qu'elles sont beaucoup plus diplomatiques. C'est trop tard. Elle fera des allusions. J'aurai besoin d'un lave-vaisselle. Il y en a un en promo. Vous savez, Jésus avec nous, c'est pareil. Il n'attend pas forcément. Si on attend qu'un ange vienne nous taper sur l'épaule, on peut attendre longtemps. mais il a besoin de nous. Et j'aime beaucoup ce verset du livre de l'Ecclésiaste qui dit que ce que tu trouves avec ta force, fais-le. Avec ta force. Mais que ce soit des petites choses ou des choses un peu plus importantes, fais-le. Fais-le parce que tu rends service à Dieu. Parce que finalement, tu lui dis, ben, je devance tes désirs. Je devance ce que tu me demandes. Je rentre et je fais attention à ce que ton cœur veut. Parce que je t'aime et que je te regarde. Ce qui tue un couple, c'est l'égoïsme. Et dans tous les domaines, et l'apôtre Paul en parlera même dans le domaine sexuel, dans l'intimité. Dans un couple, ce qui est le plus important, c'est l'autre. Pour Patrick, Valérie est plus importante que lui. Et pour Valérie, Patrick est plus importante qu'elle. Et ainsi, le couple converge et va bien. Pour Dieu, le plus important, c'est nous. Dans le ciel, on ne parle que de nous. Hein. Et pour nous, le plus important, c'est Dieu. Nous, c'est pas grave. Lui s'occupe de nous. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fasse grâce. En conclusion, je prendrai juste cette phrase de Saint-Exupéry qui dira que s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais se regarder ensemble dans la même direction. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est, elle est double, c'est vers quoi regarde Jésus ? Afin que nous puissions regarder dans la même direction. De manière très sommaire et très grossière, je dirais que Jésus, il regarde vers les âmes qui sont perdues. Et c'est vers elles que nous devons regarder. Et pas vers notre petit confort et notre petit salut. Et là, nous pourrons vraiment aimer Jésus. Et Jésus, il regarde à nous. Et, mais il ne regarde pas à nous pour simplement nous bénir, mais il regarde à nous pour que nous puissions veiller sur notre salut. Pour que nous puissions y travailler, comme écrira l'apôtre Paul. Et de la même manière, nous devons veiller sur nous-mêmes et sur notre salut. Et travailler au salut des autres. Et ainsi, je pense que nous aimerons Jésus, parce que nous ne regarderons pas l'un l'autre, ce ne sera pas une relation exclusive, mais nous irons dans la même direction. Que son nom soit béni. Amen.